Le journal.
Le journal présenté par Hélène Fromanti.
Bonjour à toutes et à tous. Quel système de retraite demain en France? Après 18 mois de concertation, le haut commissaire à la réforme des retraites a rendu sa copie ce matin. Âge d'équilibre à 64 ans, surcote décote, système à points. Dès le début de ce journal, nous serons en direct du ministère de la Santé. Notre reporter Arnaud Chouin nous décryptera les principales annonces. Dans ce journal également, les préconisations de l'Observatoire de l'éthique publique pour plus de transparence au gouvernement. Une sorte de manuel du bon ministre dans le sillage de l'affaire François de Rugy. Nous reviendrons aussi sur ce drame au Japon, au moins 24 morts dans l'incendie d'un studio d'animation à Kyoto, et puis sur la polémique en République démocratique du Congo, après que l'OMS a élevé l'épidémie d'Ebola au rang d'urgence sanitaire mondiale. Juste après ce journal, la grande table d'été avec Maïlys Bessery. Nous parlerons du mythe d'Œdipe grâce au spectacle Le Reste, vous le connaissez par le cinéma de Daniel Jeannetot, et puis on fera le portrait de Myriam Boyer. Notre futur système de retraite est donc en train doucement mais sûrement de se dessiner. Nouvelle étape aujourd'hui avec la présentation du rapport de Jean-Paul Delevoye. Comme on pouvait s'y attendre, le monsieur retraite du gouvernement préconise un système universel. Afin d'inciter les Français à travailler plus longtemps, ce système comprendrait notamment un âge d'équilibre à 64 ans avec un dispositif de surcote-décote. On retrouve tout de suite Anne-Laure Chouin en direct du ministère de la Santé. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Hélène.
Jean-Paul Delevoye détaille son rapport en ce moment. Alors c'est une réforme sensible, exposée au beau milieu de l'été. Le but affiché, c'est de garantir l'équilibre du système à long terme. Autrement dit, que ce système par redistribution supporte le vieillissement de notre population. Mais évidemment, Anne-Laure, le diable se cache dans les détails.
Oui, si a priori le passage d'un système par annuité avec 42 systèmes de retraite à un système par points et universel, cela paraît assez simple. Vous l'avez dit, tout est dans les détails. Alors d'abord, quand est-ce que ce système se mettrait en place? En 2025 pour les salariés du régime général, ce qui signifie que ceux qui sont nés avant 1963 ne seront pas concernés. 1 euro cotisé égalera 1 point qui s'accumuleront, ces points sur un compte unique que chaque Français pourra consulter tout au long de sa vie. Salariés du privé et du public cotiseront à égalité et a priori 100% des primes des fonctionnaires seront prises en compte dans le calcul. Terminé donc le nombre de trimestres minimum, les périodes de chômage, de maladie, de maternité donneront lieu à des points supplémentaires, ce qui rendra le système a priori moins inégalitaire. Chacun pourra par ailleurs cotiser à une retraite complémentaire s'il le souhaite. Alors évidemment, il y a le point très délicat de l'âge de départ à la retraite. On pourra toujours partir dès 62 ans, mais avec une décote jusqu'à 64 ans. Il y aura également un taux plein, mais qui ne sera pas à fonction de l'âge, mais du nombre de points acquis.
Et il reste, Anne-Laure, la question délicate de la valeur du point.
Oui, dans ce rapport, Jean-Paul Delevoye préconise que la valeur de ce point, en l'occurrence environ 55 centimes d'euros par point, cette valeur donc soit indexée sur l'évolution des salaires. Mais rien n'est arbitré et cette indexation est un sujet hautement politique. Elle permet en effet d'ajuster en fonction de la conjoncture le niveau des pensions de retraite, ce dont ne veulent pas les inspirateurs de la réforme, ni d'ailleurs les partenaires sociaux. Alors ce rapport va continuer d'être observé, travaillé et arbitrer. Certains points pourront évoluer avant qu'ils ne deviennent un projet de loi en bonne et due forme. Enfin, sachez que FO et la CGT maintiennent leur appel à la mobilisation contre cette réforme de retraite la semaine du 20 au 27 septembre prochain.
Anne-Laure Chouin en direct du ministère de la Santé avec les moyens techniques de François Rivalan. Quelles leçons faut-il tirer du Omargate, des révélations sur le train de vie fastueux de François de Rugy et plus largement, comment éviter de nouveaux scandales en politique? C'est la tâche ardue dont s'est emparé l'Observatoire de l'éthique publique. Afin d'améliorer la transparence au gouvernement, l'organisme a commencé par identifier différentes zones d'ombre sur les frais de représentation des ministres, sur leur logement de fonction ou encore sur les marchés publics passés par les cabinets. Un travail qui vient de déboucher sur plusieurs propositions. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Hélène.
10 premières mesures ont été dévoilées, Ilan.
Oui, alors cette note de l'Observatoire révèle effectivement de nombreuses zones de flou dans le train de vie du gouvernement. Par exemple, chacun de ses membres dispose d'une enveloppe de frais de représentation comprise chaque année entre 100 et 150 000 euros. À quoi sert-elle précisément? On ne le sait pas, nous dit la note. Régis Juanico est député Génération de la Loire. Il est le co-auteur de cette note. Et pour lui, il faut appliquer au gouvernement la même transparence qui est exigée à l'Assemblée nationale.
Ce que nous demandons de façon assez simple, c'est qu'il y ait un parallélisme des formes. Ce que l'on demande aux parlementaires, c'est-à-dire qu'on puisse contrôler notamment par le biais de factures, de justificatifs, nous demandons que ça soit appliqué aussi aux membres du gouvernement et justifier que c'est bien des frais de représentation utilisés dans le cadre des fonctions de membres de gouvernement et pas à titre privé.
Mystère également autour des logements de fonction des ministres. On ne connaît pas clairement les règles, peut-on lire dans la note. L'Observatoire propose de les supprimer purement et simplement, à l'exception des plus importants. Brouillard encore autour d'autres sujets comme par exemple le budget de fonctionnement des cabinets ministériels. Pour l'Observatoire, il faut créer un nouvel organe de contrôle. Régis Juanico.
Ce qui est aussi important, c'est que nous ayons, comme nous avons ici à l'Assemblée nationale, une déontologue qui mène un travail de contrôle, qu'il y ait aussi une déontologue ou un déontologue qui soit nommé pour les membres du gouvernement pour permettre d'avancer aussi en termes de transparence sur le train de vie de l'exécutif.
Et l'Observatoire propose aussi d'instaurer un rapport annuel de la Cour des comptes sur les dépenses de Matignon.
Merci Ilan Malka. Toujours au chapitre moralité en politique, l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, va être jugé au mois de septembre pour violation du secret professionnel. L'ex-ministre socialiste est soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels au député Thierry Soler, visé par une enquête à l'époque des faits, c'était en 2017. Les députés, les Républicains ne voteront pas le texte sur la ratification du CETA, l'accord commercial entre l'Europe et le Canada. Le président des élus LR à l'Assemblée l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Info. Selon Christian Jacob, ce texte représente, je cite, un vrai risque de déstabilisation pour la filière de la viande en France. Il souhaite donc que ce secteur soit écarté de l'accord. Le projet de loi CETA a été examiné comme prévu hier, mais le vote a été reporté à mardi prochain. Le bilan est extrêmement important et pourrait continuer de s'alourdir dans les prochaines heures. Au moins 24 personnes ont perdu la vie dans un incendie à Kyoto, dans l'ouest du Japon. Les flammes ont ravagé un studio d'animation à succès. Le bâtiment était rempli d'employés en pleine journée de travail. La piste criminelle est envisagée. Les précisions depuis Tokyo de notre correspondant Yann Rousseau.
Il fait maintenant nuit à Kyoto, mais les pompiers sont encore sur place et le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures au fil de leur progression dans le petit immeuble de 3 étages où Kyoto Animation, on dit ici KyoAni, avait monté un studio mais aussi une partie de son centre de formation. La police est aussi sur place pour l'enquête. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'un homme âgé d'une 40aine d'années serait entré dans les locaux juste avant 10h30. Il aurait hurlé « Vous allez mourir » et il aurait aspergé les bureaux d'essence avant de mettre le feu. Il ne serait lui-même pas décédé dans l'incendie, il aurait été placé sous la surveillance de la police à l'hôpital où il est traité pour des blessures et les enquêteurs disent qu'ils n'ont pas encore pu l'interroger et donc nous n'avons pas pour l'instant d'informations sur l'origine de son différend avec Kyoto Animation. Ce studio n'est pas le plus grand ou le plus emblématique du Japon, mais il est très connu ici pour ses séries télé, ses longs métrages, ses mangas et ses produits dérivés. Et il commençait aussi à connaître un certain succès à l'international, en dehors des fans habituels d'animé japonais. L'an dernier, le groupe avait notamment signé un gros contrat avec Netflix pour faire diffuser dans plusieurs pays sa série Violet Evergarden.
Yann Rousseau pour France Culture. 5 ans après la grande épidémie d'Ebola qui a tué 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest, l'Organisation mondiale de la santé a décrété l'urgence sanitaire mondiale en République démocratique du Congo. La fièvre hémorragique y a tué près de 7000 personnes en un an et de nouveaux cas ne cessent d'apparaître. Cette décision alarmiste de l'OMS divise la communauté scientifique internationale. Fallait-il déclencher l'alerte? Écoutez l'avis de Yazdan Pana, le chef du service maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Il est au micro de Claude Guibal.
Le fait qu'il y ait eu un cas à Goma n'est pas anecdotique parce que Goma, c'est une grande ville. D'autre part, avec un aéroport international. Donc, si vraiment il y a une chaîne de transmission à Goma, c'est pas anodin. Après, c'est très compliqué de dire est-ce qu'ils ont eu raison ou pas. Ça n'a rien à voir avec l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, qui était d'une étendue beaucoup plus importante, qui était vraiment en zone urbaine, c'était dans 3 pays. Là, malgré tout, même s'il y a eu le cas d'Ouganda, il n'y a pas eu de transmission secondaire pour l'instant. La probabilité qu'il y ait une chaîne de transmission est faible. Donc du coup, c'est très compliqué de dire c'est quand qu'on déclare d'urgence. Mettre le seuil, c'est toujours très compliqué. Alors maintenant, c'est quoi l'impact de ça? Pourquoi c'est bien de faire et pourquoi c'est pas bien de le faire? C'est bien de faire parce que je pense qu'il va y avoir une vraie prise de conscience internationale. Et cette prise de conscience internationale fait que les financements, l'implication, etc. est très important. C'est pas bien parce que ils disent qu'il faut pas qu'il ait impact sur les vols, sur les déplacements, les visas, etc. Mais malheureusement, inconsciemment, ça va avoir un impact pour les pays et c'est ça le danger.
Un plan blanc d'urgence sanitaire déclenché en Guyane après le décès de 3 militaires français. Ces soldats étaient engagés dans une opération de lutte contre l'orpaillage illégal lorsqu'ils ont été victimes d'intoxication au fond d'une galerie souterraine. 5 autres militaires sont hospitalisés. Wafia Kenich, vous nous avez rejoint. Racontez-nous, Wafia, ce qu'il s'est passé.
Effectivement, Hélène, on va revenir à cette journée d'hier, hein, mercredi après-midi, 16h heure locale. Des militaires qui s'engagent dans une galerie souterraine. Leur objectif, c'est de disposer des charges explosives pour détruire des installations souterraines d'orpailleurs clandestins. C'est à ce moment-là que 8 d'entre eux sont pris de malaise à cause, semble-t-il, d'émanations toxiques au fond de cette galerie. 3 militaires sont donc morts, 5 autres sont blessés, l'un grièvement et sont actuellement hospitalisés à Cayenne. Ces 8 hommes, ils sont issus du 19e régiment du génie de Besançon. Ils étaient en courte mission à Cayenne depuis le 11 juillet. La ministre des Armées, Florence Parly, a d'ailleurs adressé ses condoléances à la famille. Le plan blanc, comme vous l'avez dit, a effectivement été déclenché par la préfecture à Cayenne en raison du grand nombre de victimes et une enquête de la gendarmerie est également en cours. Donc le procureur adjoint de Cayenne, Jean-Claude Bellot, dit qu'il s'agit bel et bien d'un accident. Un accident qui s'est déroulé dans une zone forestière isolée du sud-ouest guyanais. Il n'y a pas de voie terrestre vers le littoral, il n'y a pas de réseau téléphonique. On est au cœur du parc amazonien de Guyane, un vaste espace protégé. Sur ce site, d'après la dernière mission de survol du parc, on compte 132 sites aurifères illégaux, soit 10 de plus qu'en août 2018. Il s'agit de l'un des chiffres les plus élevés de ces 11 dernières années. Il faut aussi savoir que les puits de ces orpailleurs clandestins peuvent atteindre 30 à 40 mètres de profondeur. Ils sont reliés entre eux par des galeries souvent très fragiles. Destructeur pour la nature, l'orpaillage clandestin est donc aussi dangereux pour les humains. En 2012, 2 militaires avaient été tués par des orpailleurs clandestins.
Merci Wafia Kenich. On vient de l'apprendre, en Turquie, 14 personnes sont mortes dans l'accident d'un minibus qui transportait des migrants. Très peu d'informations pour l'instant, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur France Culture. La Turquie qui justement a décidé d'être écartée par les États-Unis du programme de développement de l'avion de combat américain F-35. La menace pesait depuis qu'Ankara s'est dotée d'un système de défense antimissile russe. Dans un communiqué, la diplomatie turque appelle Washington à revenir sur cette décision qualifiée d'erreur et qui pourrait cette décision nuire aux relations entre les deux alliés de l'OTAN. Elle est poursuivie pour avoir tenté de sauver des clandestins. Carola Racketeux, la jeune capitaine du Sea-Watch 3, s'expliquait ce matin devant les magistrats italiens. Avant cette audience à huis clos, elle a été accueillie par de très nombreux journalistes mais n'a pas fait de déclaration. Le 29 juin dernier, le navire Sea-Watch a accosté de force à Lampedusa en Italie pour débarquer 40 migrants sauvés en Méditerranée. Après 2 jours autour de la table, les pays du G7 Finance, dont la France, sont finalement parvenus à un accord sur la taxation du numérique. Cet accord devrait permettre à terme de créer une imposition minimale des géants du numérique, dont Amazon, Google ou encore Facebook. Facebook qui agite la toile en ce moment pour un tout autre sujet. Un événement publié sur le réseau social il y a quelques jours. Cet événement propose aux internautes de prendre d'assaut la zone 51. S'il s'agit d'une base ultra secrète située dans le désert du Nevada aux États-Unis, cette zone serait habitée par des extraterrestres. 1 300 000 personnes ont déjà répondu qu'elles participeraient à cet assaut et sur place, les autorités américaines prennent l'affaire très au sérieux. Capucine Jaffé. Avoir un tête-à-tête avec un alien, c'est le fantasme du youtubeur français Adam le Rigolo, qui dans sa dernière vidéo a annoncé se rendre sur la zone 51.
Dans un premier temps, quand je serai sur place, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo, histoire de montrer un petit peu comment se présente la zone 51 à mes abonnés, et par la même occasion, voir si en effet, il y aurait une vie extraterrestre ou pas là-bas. C'est pas que je crois au mythe de la zone 51, mais disons que j'aimerais bien y croire en fait, c'est plus ça.
Qu'il soit influencé par la pop culture, ou les théories conspirationnistes. Les participants de l'événement Facebook semblent très motivés. Nick Pope a enquêté sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense.
Cet événement Facebook a commencé comme une blague, mais il semblerait que cela devienne réel et je l'ai constaté en regardant les discussions sur Internet. Beaucoup de personnes prévoient d'y aller. Bien sûr, pas un million de personnes, mais peut-être des milliers.
Alors que les internautes s'amusent à mettre en place des stratagèmes pour accéder au site, la zone 51 reste l'un des endroits les plus surveillés du monde.
Un mot de météo, l'après-midi sera ensoleillé dans une large partie du pays. Sur les Pyrénées, des ondées pourraient prendre un caractère orageux. Quelques passages nuageux, voire des averses, sont aussi à prévoir dans le sud-est. Les températures seront comprises entre 20 et 34 degrés.